Les musiciens en leur temps, une émission proposée par Daniel Cabanis.
Le thème de la femme qui veut arriver par tous les moyens, prostitution comprise, est évidemment récurrent. Et une commande récente du Royal Opera House à Londres en donne un exemple significatif. À la clé, toujours l'échec, la mort, l'opprobre, ce qui confirme à quel point il est difficile d'abandonner les clichés. L'opéra Anna Nicole résulte d'une commande par Tony Hall, directeur général du Royal Opera House, d'un opéra contemporain. Le compositeur Mark Anthony Turnage et le librettiste Richard Thomas sont approchés dès 2008. Et tous les deux se mettent d'accord pour proposer un sujet consacré à la playmate Anna Nicole Smith, morte l'année précédente. Turnage, qui est né en 1960, est l'auteur de deux opéras déjà largement représentés et il est un familier des sujets violents et excessifs. Avec Richard Thomas, il fait d'Anna Nicole Smith une héroïne dans la lignée de Carmen, de la Loulou d'Albanberg ou, exemple cette fois-ci théâtral, de la prostituée Jenny de Weil et Brecht, une petite Texane déterminée à réussir au plus vite, de n'importe quelle façon et à n'importe quel prix. La direction de Covent Garden accepte l'œuvre et décide de la monter, prenant toutefois la précaution de préciser avant les représentations, dans un avertissement au public, que cet opéra parle de sexe, de drogue et emploie un langage extrême, entre guillemets. Et d'ailleurs, à la suite de la radiodiffusion de l'opéra, la BBC n'a pas reçu moins de 55 000 plaintes d'auditeurs. On entend ici Tired Now, Danny. L'héroïne s'adresse à son fils Danny, chanté par Madeleine Pierrard. Alors en gros, quelle est l'histoire? Au premier acte, un chœur de journalistes et cadreurs se bouscule autour d'Anna Nicole, elle donne une interview, raconte n'importe quoi, évidemment tout le monde en redemande. On découvre sa famille, sa mère Virgie, femme aigre, rigide, et son fils Daniel qu'elle adore. On écoute la balade de la drogue avec Daniel.
Percocet, Tramadol, Xanax, Zoloft, morphine, methadone, laboratory cultivated skunk. Klonopin, Lexapro, oral hydrate.
Puis elle divorce et décide d'abandonner l'univers miteux qui est le sien. Et en compagnie du cœur des journalistes, elle pénètre au Gentleman's Club, où les perspectives d'enrichissement lui semblent infinies. Elle se fait poser des implants mammaires pour augmenter ses chances, mais, ce qui arrive parfois dans la vraie vie, elle souffre du dos. Elle rencontre un très vieux milliardaire qu'elle épouse. Et elle voit s'ouvrir à elle un avenir radieux, enfin fait de richesse, mais aussi de douleurs lombaires. Dans l'acte 2, dans une ambiance très cosy, douillette, Anna Nicole explique à son mari le bonheur d'être célèbre. Et elle donne une gigantesque party. Nous en écoutons l'air.
Right, let's party!
Pendant cette partie, Howard, le mari, a une attaque. Il meurt. N'a pas fait de testament. Donc, Anna et son avocat vont en justice. Et 10 ans passent. Anna et Stern, l'avocat, participent à l'émission du journaliste Larry King. Ils racontent qu'ils se battent en justice depuis 10 ans et n'ont pas reçu un cent de la famille Marshall. Anna explique qu'elle n'est plus dépendante aux médicaments et annonce son retour. Stern a visiblement pris en main la vie d'Anna, qui en fait mange de plus en plus, donc a de moins en moins de chances d'avoir la position dont elle rêve, et la troupe de journalistes doit désormais passer par lui. Quand Anna lui annonce qu'elle est enceinte, il a l'idée de filmer l'accouchement pour le diffuser en pay-per-view. Au moment de la naissance de sa petite fille, Anna croit comprendre un instant ce qu'est le bonheur. Mais 3 jours après cette naissance, son fils Daniel, qu'elle adore, meurt dans d'horribles conditions et la perte de son fils la rend folle. Lors de sa crise, Stern la prend en photo. On voit le piège. Anna a perdu toute envie de vivre, les caméras continuent à la filmer. Et alors que sa propre mère, Virgie, se lamente sur le malheur des mères, Anna se glisse dans un sac à cadavres et lance un baiser en tirant sur elle la fermeture. Au-delà de cet exemple particulièrement violent, il faut relever qu'un certain nombre de metteurs en scène introduisent des prostituées ainsi que d'autres marginaux dans des opéras qui n'en prévoyaient pas nécessairement. On pense immédiatement au Don Giovanni de Mozart monté par Peter Sellars avec Lou Barre, drogue et prostituée en 1989 à Bobigny. Le but serait de souligner la déshérence sociale d'un héros ou la perversion d'un monde sans morale, bien qu'on puisse se demander si ces présences un peu surprenantes ne seraient pas principalement décoratives et pourquoi pas de pure convention. Ainsi, par exemple, la bacchanale trash du Venusberg dans le Tannhäuser de Wagner, mise en scène par Olivier Py en 2005 au Grand Théâtre de Genève, avec son hardeur à longue verge de flutio et tête de minotaure. Herbert von Karajan dirige la dite bacchanale. Ou bien encore le dernier Rigoletto de Verdi, mis en scène par Robert Carsen, présenté au Festival d'Aix-en-Provence, qui voit la bonne société s'encanailler en compagnie de femmes qui sont menées au fouet comme des fauves domptées sur une piste de cirque. En n'y pensant pas trop, on écoute ici le célèbre La Donna e Mobile, enregistré à cette occasion au théâtre de l'Archevêché.
La donna è mobile, qual piuma al vento, muta d'accento e di pensiero. Sempre una mobile, leggiadro viso, in pianto e riso e menzognero. La donna è mobile, qual piuma al vento, muta d'accento.
Une Italienne à Alger, montée il y a quelques années au Capitole, ne mobilisait pas moins d'une stripteaseuse se dévêtant intégralement pour exciter le sultan, alors que la cantatrice interprétant le rôle titre avait refusé de se dévêtir et prenait son bain avec force mousse, mais une combinaison couleur chair pour faire comme si. Nous écoutons ici « Va sopra il mio cervello », Nella testa ho un campanello, avec Montserrat Caballé, Ruggero Raimondi, Marilyn Horn, dirigé par Claudio Abbado à l'Opéra de Versailles.
Sinador, mia moglie, il nostro vincolo farà per te si scioglie. Questi che tu, mio schiavo, si ne con lei sposar. Questi che tu, mio schiavo, si ne con lei sposar.
On peut se demander si cela ne devient pas une sorte de contre-convention qui ne prouve en rien un véritable esprit de liberté, surtout quand c'est pesant et finalement ennuyeux. Je ferai un parallèle avec cette manie qui a duré pendant longtemps où les méchants étaient toujours représentés en nazis. Le comportement des nazis est une horreur absolue, là-dessus il n'y a pas l'ombre d'un doute. Mais à force de les mettre à toutes les sauces, on fait peut-être le contraire de ce que l'on veut, c'est-à-dire qu'on les banalise et qu'on ne pense plus à la réalité, l'horreur dont ils ont été coupables, pour les voir comme des amuseurs pitoyables dans des opéras, ce qui n'est peut-être pas la meilleure démonstration de ce qu'on voulait faire.